Laudetur Jesus Christus.
Des milliers d'Éthiopiens fuient la région dissidente du Tigré. L'assaut sur Mekele, la capitale régionale, a été annoncé hier par le Premier ministre Abiy Ahmed. Plus de 40 000 civils se sont réfugiés au Soudan voisin, victimes d'une offensive militaire, mais également spoliés de leurs terres. Reportage juste après les titres. Nous nous rendrons ensuite au Mozambique, où la situation humanitaire dans la province de Cabo Delgado est extrêmement préoccupante. Chaque jour, des dizaines d'habitants fuient les attaques djihadistes. Médecins sans frontières, Belgique tente de leur venir en aide à Pemba. Plus de 60 millions de personnes contaminées par la Covid-19 dans le monde. L'Allemagne fait état d'un million de personnes testées positives. La Malaisie est également fragilisée par la pandémie. 2000 ouvriers étrangers ont été infectés cette semaine. Éclairage dans quelques instants. Et puis nous reviendrons sur ce vaste coup de filet au Salvador, au Guatemala et au Honduras contre les maras. Quelques 600 personnes appartenant à ces gangs criminels ont été arrêtées.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, les combats se poursuivent en Éthiopie, dans la région dissidente du Tigré. L'offensive finale contre les forces du TPLF a été annoncée hier par le Premier ministre Abiy Ahmed. L'armée affirme encercler Mekele, la capitale régionale qui compte 500 000 d'habitants, mais il est impossible pour l'heure d'évaluer l'avancée des combats, la province étant toujours soumise à un blocus des télécommunications. L'une des principales routes menant au Soudan est bloquée par l'armée éthiopienne, empêchant les civils de rejoindre le pays voisin. Plus de 40 000 Éthiopiens ont franchi la frontière, fuyant les violences. Ces réfugiés tigréens ne subissent pas seulement l'offensive militaire, ils affirment aussi être dépossédés de leurs terres par des milices de l'ethnie Amhara. Le reportage d'Eliott Braché.
Dans le camp d'El Hachaba, il suffit d'un coup d'œil pour voir que beaucoup de réfugiés sont des paysans. De nombreux tracteurs sont stationnés à côté des abris de fortune. Mais Konen Tigabo possédait 4 hectares de sorgho à Meikadra.
J'ai pris la fuite sur mon tracteur car j'ai vu des gens dans le village se faire massacrer, des jeunes égorgés, des femmes violées. Ce sont les Fanos qui ont fait ça. Ces gangs d'Amara disent depuis longtemps que toutes les terres qui s'étendent jusqu'à la rivière Tekedse sont à eux. Mais cela s'est empiré depuis l'élection d'Abiy Ahmed. Il les a poussés à revendiquer ces territoires.
Pour cet autre fermier, Gebre Zaber Gebre Michael, les milices Amhara s'engouffrent dans le sillage de l'armée fédérale pour piller et spolier les Tigréens.
Pour cette saison, on avait fini de récolter le sésame. Il ne restait plus que le sorgho, mais on n'a pas eu le temps. Ils vont tout nous voler. Les Fanos ont déclaré la guerre aux Tigréens pour les terres. Leur but, c'est de nettoyer cette région de tous les Tigréens.
La région qui borde la rivière Tekezé est connue pour son sol fertile. Le contrôle de cette terre est aujourd'hui devenu un facteur de haine supplémentaire entre Tigréens et Amhara. Eliott Braché, El Hachaba, Radio Vatican.
Le Mozambique, déstabilisé par la présence de djihadistes au nord du pays, a signé il y a 3 jours un accord avec la Tanzanie frontalière, également touchée par des attaques. Les deux pays ont dit vouloir lutter ensemble contre les groupes terroristes présents sur leur territoire. Dans la province de Cabo Delgado, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. 500 000 de personnes ont fui les combats, soit près d'un quart de la population de la province, selon les autorités. La correspondance régionale de Valérie Hirsch.
Les arrivées de déplacés qui fuient les combats dans le nord continuent chaque jour. Beaucoup sont hébergés par des membres de leur famille, d'autres vivent dans des écoles et des centres temporaires. Les besoins alimentaires semblent couverts, mais il y a des cas de malaria et aussi de choléra car l'eau potable manque. Alain Cassa est directeur au Mozambique de Médecins sans frontières Belgique. Son équipe intervient notamment à Pemba, la capitale provinciale de 200 000 habitants, qui héberge à présent près de 100 000 déplacés.
Nous, on a contribué à installer quelques sites d'accès à l'eau, mais il va falloir réviser notre copie parce que c'était prévu pour les 30 000 qu'il y avait en début d'année et pas pour les 100 000 qu'on a en cette fin d'année. On est limité en termes de ressources, que ce soit humaines ou techniques ou même matérielles. On n'aura probablement pas les réponses à nos attentes, c'est-à-dire autoriser les internationaux à rentrer dans ce pays et faciliter l'importation de matériel humanitaire.
Le Mozambique tarde à mobiliser l'aide internationale alors qu'il faudrait construire des camps, vacciner les enfants et distribuer des moustiquaires. Maputo n'a pas mis en place de plan d'urgence comme lors des 2 cyclones de 2019. Depuis des mois, le gouvernement a cherché à minimiser la menace islamiste alors que la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver. Johannesburg, Valérie Hirsch pour Radio Vatican.
La conférence épiscopale d'Afrique du Sud a décidé d'effectuer une visite de solidarité auprès de l'évêque de Pemba, chef-lieu de la province de Cabo Delgado, du 2 au 4 décembre. Monseigneur Lisboa a lancé à plusieurs reprises des appels à l'aide adressés à la communauté internationale. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France dépose un référé liberté au Conseil d'État, une décision prise suite aux déclarations hier du Premier ministre Jean Castex qui a annoncé le maintien d'une jauge de 30 personnes pour les célébrations religieuses dès ce dimanche, une mesure jugée aussi irréaliste qu'inapplicable par les évêques de France qui estiment avoir le devoir de veiller à la liberté de culte en France. L'affaire fait grand bruit en France. Emmanuel Macron s'est déclaré très choqué par la vidéo montrant des policiers passant à tabac un producteur noir. C'est ce qu'a indiqué ce matin la présidence. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été reçu dans la matinée par le président français qui a réclamé des sanctions très claires contre les quatre policiers mis en cause. La pandémie de coronavirus continue de s'étendre dans de nombreux pays. L'Allemagne est particulièrement touchée par la deuxième vague de l'épidémie. Le seuil du million de personnes testées positives au Covid-19 a été franchi hier. La Malaisie n'est pas non plus épargnée. Et en début de semaine, plus de 2000 ouvriers étrangers étaient testés positifs au coronavirus dans les 27 usines de Top Glove, le premier fabricant de gants en latex au monde. Pour tâcher d'endiguer cette nouvelle vague de transmission, les autorités ont décidé de tester 1,7 million de travailleurs migrants, une tâche colossale qui s'annonce ardue. Gabriel Maréchaux.
Ils sont birmans, philippins, indonésiens ou bangladais. Leur travail répond souvent aux 3D, dirty, dangerous, difficult, soit en français, dangereux, difficile et sale. Depuis la pandémie de coronavirus, ils sont très vulnérables dans les dortoirs où ils vivent souvent en grands groupes, près des usines ou des plantations d'huile de palme qui les emploient. 1,7 million d'entre eux vont devoir se faire tester, a annoncé le gouvernement malaisien, qui a ajouté qu'il punirait les employeurs ne proposant pas de conditions de vie décentes à hauteur de 10 300 euros par ouvrier dormant dans une grande promiscuité. Ces mesures sont radicales, mais elles seront sans doute difficiles à appliquer, car près d'un tiers des travailleurs migrants seraient sans papier et craignent aujourd'hui les autorités après l'expulsion de plus d'un millier d'entre eux cet été. Un reportage de Reuters à Bornéo rapportait ainsi ce lundi comment certains d'entre eux se cachent sous les fondations de leur maison ou dans la jungle lorsqu'ils entendent le son d'une ambulance. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
Et à l'échelle mondiale, plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement dénombrés depuis le début de la pandémie. C'est une opération de police sans précédent en Amérique centrale. Au Salvador, au Guatemala et au Honduras, la justice a délivré plusieurs centaines de mandats d'arrêt contre des membres des Maras, ces organisations criminelles puissantes qui comptent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pour le moment, plus de 600 criminels ont été interpellés. Les précisions de Xavier Sartre.
Nom de code bouclier régional, les polices et les justices du Honduras, du Guatemala et du Salvador ont entamé jeudi, avec le soutien des États-Unis, un vaste coup de filet contre des membres présumés des Maras, ces groupes responsables de la majorité des homicides, du racket, du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Rien qu'au Salvador, le pays le plus concerné par cette criminalité organisée, 1152 mandats d'arrêt ont été délivrés. Quatre chefs figureraient parmi les 572 personnes interpellées hier à la mi-journée. C'est cependant bien peu au regard de l'étendue de l'emprise de ces groupes hyperstructurés. Dans ce pays de 6,6 millions d'habitants, on recense 70 000 membres des Maras, dont 17 000 derrière les barreaux, soit plus de 1% de la population. Au Honduras, derrière l'opération Chacal, c'est un vaste réseau de passeurs d'immigrés clandestins qui est au centre des opérations. Les candidats au rêve américain doivent débourser entre 8 000 et 12 000 dollars pour espérer atteindre les États-Unis. Enfin, au Guatemala, environ 80 perquisitions ont été menées dans la région de la capitale et dans quatre régions du pays, et visait principalement des activités de racket. Partout, c'est un effort sans précédent que mènent les autorités contre les Maras.
Xavier Sartre. Le Vatican lance une nouvelle initiative intergénérationnelle à l'approche de Noël, le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie invite les jeunes du monde entier à publier sur les réseaux sociaux un don de sagesse de la part d'une personne âgée de leur entourage. Pour tout savoir sur cette initiative, rendez-vous sur notre site. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de votre écoute. Très bel après-midi. Au revoir.